RFI, 7h30 à Paris, 5h30 en temps universel.
RFI Matin.
Le journal, bonjour Pierre Boudias.
Bonjour Julien, bonjour à tous.
10 millions d'électeurs tunisiens appelés aux urnes.
Scrutin présidentiel ce dimanche que l'opposition estime joué d'avance. Seuls deux candidats face au sortant Kais Saied, dont un est toujours en détention. Première injection de vaccin contre le Mpox en République démocratique du Congo. La campagne a débuté hier par une cérémonie à Goma. Soignants et population à risque du Soud qui vous seront priorisés. L'agence de notation Moody's dégrade la note de la dette sénégalaise. Conséquence de l'audit des finances publiques demandé par le nouveau pouvoir de Bassirou Diomaye Faye. Il avait révélé un déficit deux fois plus important que prévu. Et puis la fin hier au Ghana de trois jours de manifestations, rassemblement contre l'orpaillage illégal et ses conséquences environnementales. Reportage à suivre en fin de journal. En Tunisie, les bureaux de vote ouvrent donc dans un peu moins d'une heure et demie. Élection présidentielle pour désigner le successeur de Kais Saied. Un scrutin à deux tours, aucune date pour un éventuel second round n'est pour le moment décidée. Plusieurs candidats n'ont pas été autorisés à concourir, bien que le tribunal administratif leur avait permis de le faire. Alors reste-t-il un quelconque intérêt à cette élection dans ces conditions? Élément de réponse avec Amira Souilem depuis Tunis.
C'est un scrutin tout à fait inédit qui se tient en Tunisie. Pour la première fois depuis la révolution qui aboutit au départ de Ben Ali du pouvoir, cette présidentielle se fait dans une ambiance que l'on peut qualifier de morose. Seulement deux candidats ont été autorisés à se présenter face à Kais Saied. Zouheir Marzewi, un ex-député panarabe, et Ayesh Izemel, industriel emprisonné pour de supposés faux parrainages. Beaucoup ici craignent donc que ce scrutin ne soit qu'une mascarade visant à offrir un plébiscite au président sortant, Kais Saied. Face à cette situation, on a assisté cette semaine au déchirement de l'opposition. Une partie appelant au boycott d'une élection jouée d'avance selon elle, l'autre appelant au contraire à essayer, je cite, de court-circuiter le système en allant voter massivement. Tous en tout cas s'accordent sur une chose. Cette campagne hautement verrouillée serait, selon eux, le signe d'une grande fébrilité du pouvoir et donc de sa fragilité. Amira Souilem, Tunis, RFI.
Amira Souilem qui sera en direct avec nous dans le journal de 9h. La participation sera particulièrement scrutée alors que le scrutin local de décembre et février dernier n'avait attiré que 12% des électeurs. Le président algérien écarte toute visite en France dans un avenir proche. Dans un entretien à la télévision nationale, Abdelmajid Tebboune dénonce un blocage mémoriel de la part de Paris et estime que la colonisation a été synonyme de génocide dans son pays. Les relations entre Paris et Alger sont au plus bas depuis fin juillet et le soutien français au plan d'autonomie marocain pour le Sahara occidental. L'ambassadeur algérien a notamment été rappelé. Paris, où s'est clôturé hier le 19e sommet de la francophonie, dernier jour marqué par un rendez-vous à huis clos des chefs d'État et de gouvernement de l'OIF. Dans leur déclaration finale, les participants appellent notamment au respect de l'intégrité territoriale de la République démocratique du Congo et condamnent tous les groupes armés présents dans le pays ainsi que les soutiens extérieurs qui leur sont apportés. Le président congolais Félix Tshisekedi a boycotté hier la réunion au Grand Palais après qu'Emmanuel Macron ait omis de citer l'Est de son pays dans les grandes crises mondiales. La RDC qui a lancé hier sa campagne de vaccination contre le Mpox, premier à se présenter face à la seringue, un médecin de Goma où s'est déroulée la cérémonie officielle de lancement de cette campagne. Les quelques 265 000 doses reçues vont désormais prendre la direction du Sud Kivu, épicentre de l'épidémie. Elles seront administrées en priorité au personnel soignant et aux populations à risque. Notre correspondant à Goma, Héritier Baraka, était sur place. Son reportage.
Je déclare officiellement le début de la riposte vaccinale contre le Mpox en République démocratique du Congo.
C'est le docteur Muboyai Chikaya Romé, directeur des cabinets du ministère de la Santé, qui a lancé officiellement la campagne de vaccination contre Mpox en RDC. Les premières cibles sont les prestataires de santé, les professionnels des sexes, comme l'explique le docteur Muboyai.
En vue de vacciner toutes les personnes cibles pour cette campagne, des stratégies spécifiques sont développées par nos experts de la vaccination pour atteindre toutes les cibles.
Docteur Janine Mouhavi, médecin chef de zone de santé à Goma, est la première à recevoir la piqûre du vaccin contre Mpox à l'hôpital général. Elle dit avoir pris des vaccins pour se protéger.
En tant qu'une personne de première ligne, je suis toujours en contact avec les malades. D'autres personnes aussi doivent prendre les vaccins. Il n'y a pas vraiment des inconvénients.
Les autorités du Nord Kivu appellent de leur côté la population à s'approprier la riposte pour éviter la propagation de cette épidémie. Prisca Kamala, conseillère du gouverneur militaire du Nord Kivu.
Cette maladie mérite donc une attention particulière de tout un chacun.
Selon l'OMS, la province du Nord Kivu court un grand risque vu sa proximité avec la province du Sud Kivu, épicentre de l'épidémie qui compte plus de 3000 cas, mais aussi les cas des déplacés. Héritier Baraka, Goma, RFI.
Et alors que la maladie a déjà fait près de 1000 morts dans le pays, Kinshasa attend toujours la livraison de millions de doses de différents vaccins promis notamment par le Japon ou la France. Et pour aller plus loin sur ce dossier, nous recevrons dans une dizaine de minutes Jean Kaseya, directeur de l'Africa CDC. Entretien déjà disponible sur RFI.fr. Une campagne de vaccination qui décolle alors même que la compagnie nationale d'aviation continue de perdre de l'altitude. Le directeur général et la directrice générale adjointe de Congo's Airways ont été suspendus par le ministère du portefeuille en cause des accusations de mauvaise gestion financière et de non-respect des résolutions du conseil d'administration. Correspondance à Kinshasa de Patient Ligodi.
Créé en 2014, Congo Airways est aujourd'hui au plus mal. De sa flotte initiale de 4 avions, il ne reste aujourd'hui que 2 appareils, tous deux cloués au sol en raison des problèmes techniques. La compagnie a bénéficié d'un moratoire accordé par l'Association du transport aérien international IATA pour lui permettre de remettre l'un de ses avions en service. Malgré les annonces répétées de soutien du gouvernement pour tenter de sauver l'entreprise, aucune intervention concrète n'a abouti jusqu'à présent. La dernière initiative en date concerne l'adoption d'une proposition de renouvellement de la flotte de Congo Airways. Lors d'un conseil des ministres en juillet dernier, Jean-Pierre Bemba Gombo, vice-premier ministre et ministre des Transports, a présenté un plan d'action pour relancer la compagnie. Un plan sur 5 ans qui prévoit l'acquisition en location-achat des 3 avions des types Airbus A320. Cependant, la société continue de faire face à des problèmes internes. Dans la décision de suspension, le ministère du portefeuille estime qu'il existe des indices graves de mauvaise gestion. Les revendications répétées de la délégation syndicale et les résultats du dernier audit viennent renforcer ces accusations. En attendant une décision définitive du gouvernement, une équipe de gestion intérimaire a été mise en place, comprenant un chargé de mission et 2 adjoints pour assurer la direction générale. Patient Ligodi, Kinshasa, RFI.
Au Burkina Faso, c'est cette fois contre de supposés comploteurs que les sanctions vont tomber. Promesse du président de transition Ibrahim Traoré lors d'une séance de questions-réponses avec des auditeurs de la radio nationale. Le capitaine assure notamment être en discussion avec le Togo où Paul-Henri Sandaogo Damimba est en exil, l'ex-chef de l'État putschiste accusé de tentative de déstabilisation par Ouagadougou. Il est 5h35. En temps universel, même heure à Dakar, le Sénégal qui voit sa note dégradée par Moody's. Vendredi soir, l'agence de notation américaine a abaissé la note du pays ouest-africain à B1. Elle s'inquiète d'un déficit budgétaire et d'un endettement nettement plus important que prévu, Claire Fage.
Moody's tire les conséquences de l'audit des finances publiques réalisé par les nouvelles autorités de Dakar. Celles-ci ont révélé la semaine dernière que le déficit budgétaire atteignait 10% du produit intérieur brut, 2 fois plus qu'annoncé par le gouvernement précédent, et que l'endettement frôlait les 80% du PIB, soit 10% de plus qu'annoncé antérieurement. L'agence de notation américaine abaisse donc la note du pays de BA3, la catégorie spéculative, à B1, la catégorie très spéculative. On est encore loin du défaut de paiement caractérisé par la note C, mais cela signifie que le risque associé au Sénégal augmente. Les taux d'intérêt qui lui sont appliqués vont grimper, précise-t-on chez Bering Point. Cela va forcer le gouvernement à être vigilant et à discuter avec le Fonds monétaire international qui a revu à la baisse la croissance du pays de 7,1% à 6%. On attendait une réaction épidermique des marchés, commente de son côté l'économiste sénégalais Meissa Babou. Mais avec les perspectives économiques et l'engagement du pays à corriger tout cela dans le court terme, la confiance devrait revenir, juge-t-il. Les autorités de Dakar ont promis de réduire le déficit en 2025 et de faire revenir l'endettement sous les 70% du PIB.
Claire Fage, au Ghana, à la fin hier soir de 3 jours de manifestation contre les mines d'or illégales, une veillée qui a rassemblé plusieurs centaines de personnes était organisée à Accra en hommage à la 50aine de manifestants détenus. L'occasion de rappeler que la lutte est loin d'être finie. Sur place, Victor Cariou.
Des centaines de bougies allumées brandies une à une haut vers le ciel pluvieux devant l'Accra Sports Stadium. La foule, elle, scande en chœur le nom des 53 manifestants arrêtés. Parmi eux, Ezekiel Adi, étudiants à Accra.
Nous continuerons de manifester tant qu'ils ne libèrent pas nos amis. Ce ne sont pas des criminels. Les vrais criminels sont ceux qui polluent nos rivières. Ce sont eux qui doivent être arrêtés.
Devant eux, un écran géant diffuse les images de rivières couleur ocre polluées par le Galamsey. Un sujet maintenant au devant de la scène selon Joe Jones, Ghanéen d'une vingtaine d'années.
Si l'on ne fait rien, nos enfants vont souffrir. Ici, au moins, on voit des gens qui n'approuvent pas cette absurdité. Le mouvement grandit doucement et je crois que justice sera rendue. Si ce n'est pas par le gouvernement, ce sera par le peuple.
Plusieurs milliers de personnes réunies, des pétitions envoyées au gouvernement, le tout sans accroc avec la police. Aucun doute, ces trois jours ont été une vraie réussite pour Emmanuel Sarpong, l'un des organisateurs.
Quand on a commencé à en parler sur Internet, beaucoup de monde pensait qu'on ne serait pas capable de réunir autant de gens. Donc, voir toutes ces personnes de plus en plus nombreuses chaque jour, c'est définitivement une victoire.
Le collectif donne maintenant une semaine aux autorités pour répondre à leurs demandes, sous peine de retourner dans la rue. Victor Cariou, Accra, RFI.
Des grèves et autres manifestations contre le Galamsey, notamment organisées par la Conférence des évêques catholiques, sont prévues la semaine prochaine. La protection des écosystèmes au cœur d'une exposition événement à Madagascar, interpeller le vivant, c'est son nom, en temps sensibilisé par le sensible, un programme derrière lequel se cache une volonté de montrer la nature et d'inculquer son respect loin des discours moralisateurs. Débutée hier, la deuxième édition accueille ses visiteurs à Antananarive. La thématique choisie et sur laquelle ont plongé la douzaine d'artistes invités, celle des oiseaux. Ces sentinelles de la nature, excellent indicateur de l'état de l'environnement, jouent un rôle éminemment important dans l'imaginaire collectif et la culture malgache. Reportage signé Sarah Tetto.
Pour pénétrer dans l'exposition, il faut d'abord traverser un tunnel, signé Verena Conrad, qui propulse le visiteur dans une forêt artificielle. Les feuilles qui tapissent les murs ont été réalisées avec des emballages, les chants des oiseaux créés par ordinateur.
Là, on est dans l'artifice.
Yubi Rabaritzone est la curatrice de l'exposition.
Bientôt, est-ce qu'on sera obligé d'être dans des forêts qu'on fabrique?
Suspendues au plafond, des têtes d'oiseaux endémiques de Madagascar peintes sur des canettes écrasées. On les doit à l'artiste plasticien Yanji Ranjamanjous.
Pour moi, les oiseaux représentent la résilience, car ils existent encore aujourd'hui, même si nous avons modifié leur habitat. Nous avons construit beaucoup de maisons. Ils représentent aussi l'adaptation, parce qu'ils s'adaptent à leur environnement changeant où ils s'éloignent et trouvent d'autres endroits pour survivre. Peut-être que je ne coupe pas directement d'arbres, mais sans doute que le lit dans lequel je dors est fait de bois provenant d'un arbre qui faisait partie d'un écosystème quelque part.
À ces œuvres suspendues répondent les vers de l'écrivain Dzua Ravalus.
Les oiseaux d'Inde bientôt n'existeront plus, ni ici ni là, nulle part. Ne demeurera que la mélancolie des ailes perdues.
Sarah Tetto, Antananarivo, RFI.
Une exposition événement dans la capitale malgache à retrouver donc jusqu'au 17 octobre prochain. Voilà, c'est la fin de ce journal. Merci à vous de l'avoir suivi. Vous retrouvez tout de suite Julien Coquel-Rohem pour la suite de RFI Matin.
Merci Pierre Boudias.